avec Denis Gravel et Annick Marceau. On refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
3, 2, 1.
Ce qui reste de Denis Gravel est devant moi.
Quand même.
Il reste quelques morceaux. Je pense qu'on peut l'achever aujourd'hui. Il
y a quelqu'un juste... qui ne l'aime pas peut en profiter.
Il y a juste un gros morceau qui tousse puis qui est bien tanné.
Tu m'as toussé dessus il y a genre trois... La semaine passée ou lundi, je me rappelle plus.
Il t'a toussé dessus?
Solide. Putain, une bonne toux, là.
Comment j'ai fait ça?
Comme ça, dans le pit stop.
Ah, dans le pit stop, c'est parce que je m'éloigne du micro. Fait que je me rapproche de toi.
De moi, pour me tousser dessus.
Mes excuses.
Puis je me trouve faite forte parce que les deux, vous êtes malades depuis deux semaines. J'ai pas mis rien.
Ouais, c'est ça. T'es blindé.
Ils t'attendent pour ton voyage.
Ouais, c'est ça. On aurait aimé ça, te donner ça pour ton voyage.
Ah, c'est tellement gracieux de votre
part. Pour que t'amènes un peu de nous. Là-bas.
Mais je trouve que ça dépend des systèmes immunitaires. T'es-tu un gars qui pogne beaucoup de choses?
Je te dirais que oui. On me disait, quand les enfants vont commencer à la garderie, tu vas tout pogner, mais tu vas te faire un système immunitaire. C'est pas arrivé.
T'as tout pogné sans le système.
Ouais, c'est ça. C'est la journée porte ouverte qui se poursuit chez nous tous les virus de toutes les catégories.
Même affaire pour moi. J'étais jamais malade. À partir du moment où j'ai eu les enfants, ils ont fréquenté la garderie, ça ramenait tout à la
Fini,
maison.
Hein?
À un moment donné, j'avais l'impression que j'avais pogné la coqueluche, le scorbut.
Moi, j'ai l'impression que les virus dansent en rond autour de moi depuis 4 ans, puis ils jouent à tag. Une fois de temps en temps, il y en a un qui me pogne, puis ben oui, mais partez! Ouais.
Puis j'ai constaté qu'on est... Ben, peut-être que c'est très scientifique l'affaire, là, mais tu comprends que j'ai pas fait mes recherches, là. Mais j'ai constaté que si je dormais pas, mettons, bien 2-3 nuits en ligne, là je devenais fragile à pogner quelque chose à chaque fois. Dès que t'es brûlé, c'est là où t'es
le plus
susceptible. Ah ouais?
Ouais, moi, le stress beaucoup. Je suis un gars qui stresse beaucoup, puis... Ouais. Des fois, je tombe en... Ils appellent ça de l'ivresse mentale. Quand je suis en période d'ivresse mentale, que j'ai un problème à régler, que je sais pas comment, puis que ça m'énerve, puis que ça occupe 100% de mes pensées, là, on dirait que le système surchauffe, puis là, les virus, ils en profitent.
Fait que là, c'est ainsi. Qu'est-ce qui te tracasse, Denis?
Mon Dieu, Seigneur, veux-tu vraiment aller là?
Bonne liste! Mais ça, c'est vrai. Puis souvent, on niaise avec les vacances, mais quand tu tombes en vacances, c'est comme si ton corps se relâche, puis là, pap! Si tu avais pogné de quoi ou si tu cuvais quelque chose à l'intérieur, ben bonne chance.
La première année qu'on est arrivé à Boulevard, on avait donné une go incroyable dans le job. Je pense le dernier mois et demi avant Noël, tout le monde avait travaillé en fou parce qu'on avait plein d'émissions préenregistrées à faire pour le temps des fêtes. Puis on avait mal organisé notre travail. Bref, on a travaillé comme des cons les deux dernières semaines et la journée où tout le monde est tombé en vacances, on s'est tous... Genre, envoyer des messages le lendemain. T'es-tu malade, toi? Ouais, je suis malade. Tout le monde est tombé malade.
Oh,
la journée où on est tombé en vacances puis que les nerfs ont relâché un peu, là, on est tous tombés malades en même temps.
SOS.
Comment ça, SOS?
Mais c'est la pire affaire. Tu donnes tout ce que t'as, tu donnes tout ton jus, puis t'es comme, tu vois, à la ligne d'arrivée.
Enfin!
Puis tu tombes malade. Dans mes grosses années par rapport de morning, puis tout ça, là, je savais initialement que si je partais une semaine, ça allait être une semaine de maladie.
Ouais.
Denis, j'ai le goût de te faire entendre quelque chose.
Oui.
La semaine prochaine, on perd Pascal.
Mm-hmm.
J'y ai fait une promesse que j'allais être son Liam Neeson.
J'ignore qui vous êtes. J'ignore ce que vous voulez. Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai en revanche, ce sont des compétences très particulières. Je les ai acquises au cours d'une longue, très longue carrière et elles feront de moi un véritable cauchemar pour vous. Si vous relâchez ma fille maintenant, j'oublie tout, ça s'arrête là.
Mais Pascal...
Je vous laisserai tranquille. Je ne vous poursuivrai pas. Mais si vous la gardez, je vous chercherai. Je vous trouverai.
Et vous tuerai.
Et je vous tuerai.
Et voilà.
Dans le fond, au lieu de donner au suivant, tu veux hostel au suivant.
Exact!
Ouais, c'est ça.
Parce que Pascal s'en va se promener. On sait qu'elle va atterrir en Italie. Sais-tu pourquoi? Elle l'a pas dit à personne sauf à moi.
C'est quoi?
Elle s'est promis il y a de ça quelques mois. Je ne donnerai pas les raisons, mais elle s'est promis il y a de ça quelques mois qu'elle allait manger un repas italien.
OK.
Donc, elle dit, je vais atterrir en Italie.
C'est...
Mais pour le reste, on ne sait pas où elle va aller, là.
C'est vaseux, hein?
Il n'y avait pas deux sens à ce qu'elle dit aussi, là. Je veux juste qu'on soit clair.
Absolument.
Ben, dans le vaseux?
Non, dans manger un repas italien.
Ben, rendu là-bas, tu manges ce que tu veux. T'es une grande fille, là.
Mais tous les éléments sont là pour que, lorsqu'elle débarquera de l'aéroport, il y a quelqu'un qui la remarque.
Oui.
Ouais.
Ouais.
Et qui apprennent en photo, mm-hmm. qui jasent, qui te propose d'embarquer avec lui dans son taxi pour partager les frais jusqu'à
moi,
l'hôtel.
C'est mon genre de faire « Ah oui, OK.
Ouais, fait que Leclerc Communication va négocier ton retour au pays avec ou sans tes organes.
Fait que... Si quelqu'un veut un poste, c'est le temps de postuler.
Hey. On cherche un poumon puis un rein.
Ouais. Denis, vers les alentours de 10 heures ce matin, j'avais de l'information comme quoi des policiers se rendaient dans le secteur de Frampton. Et vers 10h, je te dirais 10h40, 10h50, j'ai eu la confirmation comme quoi le local des Hells Angels à Frampton avait été investi par les policiers et maintenant sécurisé. Le DPCP qui a autorisé les policiers à faire ce travail-là parce qu'on considère que ce bunker-là a été acquis avec le fruit de la
criminalité.
Ouais. Et ce que Pascal a posé tantôt comme question en début de show, c'est une question hyper pertinente. Pourquoi là, maintenant... Mais on avait collé à shot dans le pit stop il y a de ça quelques jours, la victime de 14 ans.
Mm-hmm.
Ça a fait en sorte que les policiers ont commencé à se dire « Ouais, faudrait peut-être faire quelque chose. »
Puis en même temps, ben le fait qu'un jeune de 14 ans ait perdu la vie, ben là, ça donne des motifs raisonnables de saisir tout ce qu'il y a à saisir dans le repère pour essayer de reconstituer les événements. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé sur place? Est-ce que c'est le fruit d'une confrontation là-bas? Est-ce que c'est d'autres choses? Puis oui, c'est malheureux. Il faut attendre que des jeunes perdent la vie de façon innocente ou pas pour qu'on passe à la deuxième vitesse.
Mais je me questionne parce que c'était tellement connu depuis des années. Moi, je le vois plus comme probablement qu'il y avait un avantage à ne pas le démanteler.
Oui, absolument.
Tu sais, quand tu sais son où, là...
Les moteurs tranquilles sont de bons moteurs. Ben, puis avant que la guerre éclate, la meilleure... Ça, ils le diront jamais. Mais ma perception, c'est que quand les moteurs sont des bandits en cravate, qui sont à la semi-retraite.
Dans des entreprises ou autres.
Puis qui ont la main mise sur le marché de la drogue, puis que ça fait pas de bruit, qu'il n'y a pas d'effusion de violence et que tout roule rondement, ça fait l'affaire des bandits, puis ça fait l'affaire des policiers,
tu
de laisser
sais,
les choses aller, puis de pas brasser l'écosystème. C'est un peu comme dans une prison. J'imagine qu'on laisse passer un peu de stock pour acheter la paix puis faire en sorte que ça bouille pas trop.
Pendant le temps des fêtes, je te le confirme.
Oui, hein? Ouais. Puis même le reste... Je pense que même le reste du temps, une certaine tolérance fait en sorte que tu as des détenus qui sont moins explosifs puis ça fait l'affaire de tout le monde. Évidemment, tu diras pas ça en public. Mais moi, être gardien de prison, je laisserais passer un peu de stock. Être chef de police, tu sais qu'il y a du crime organisé, mais il s'organise... Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas rien qui saute, il n'y a pas de char qui brûle. Il n'y a rien qui presse.
J'espère au moins que ce n'est pas une opération d'apparence, du genre
un
jeune de
ça.
14 est décédé, il va falloir qu'on frappe à quelque part, puis il va falloir que ça passe dans les nouvelles, fait qu'on va démanteler le bunker à Frampton. Quand on sait ils sont où, on se pose un peu moins de questions aussi sur où regarder, puis mais qu'est-ce qu'on doit avoir.
Le bunker ne sera pas démantelé. Le bunker, dans les prochains jours, va brûler.
Tu penses? Comme par magie? Un incendie...
Tu sais, des problèmes d'électricité à Frampton,
oh,
ça arrive.
Oui. Le soleil est chaud hein, à ce temps-ci de l'année. Là,
un arc
oui.
électrique.
Hydro-Québec, ça se rend là, même s'il y a des gens qui pensent que l'électricité s'arrête à Québec même. Là, mais Hydro-Québec, ça se rend là. Des fois, des problèmes avec l'électricité et tout, dans le secteur de Frampton, ça peut arriver. Pis, il y a probablement qu'il va passer au feu les prochains jours.
Mais tu sais, on a vu qu'il y avait un stress à Frampton. Là, on avait débarqué un poste de commandement pour rassurer les gens, puis ainsi de suite. Je pense que ça prenait un geste concret. Puis si en bout de ligne, ça brûle, pour quelque raison que ce soit, j'imagine que ce sera un soupir de soulagement dans le coin de Frampton, qui est un coin, mon Dieu, superbe, agréable, comme ça se peut pas. D'ailleurs, je suis dû pour aller faire un tour à Micro Frampton.
Frampton Bros.
T'es-tu déjà allé là?
Ben oui.
Oh my God!
C'est toi qui m'en avais parlé le premier. Puis moi, j'ai jamais été un fan de microbrasserie pour diverses raisons. C'est-à-dire que quand j'en bois une bière de microbrasserie, des fois,
le système se promène.
Le système se promène. Puis tu m'avais parlé de Frampton Bros. Puis j'ai été avec ma conjointe de l'époque. Puis j'avais vraiment trippé. Là. Bon, j'avais pris de la bière, oui, mais j'avais mangé là.
Uh-huh.
C'est, c'est beau, c'est un bel endroit.
Écoute, regarder le soleil se coucher dans ce coin-là, d'une chaise à Dirondack dehors, ou regarder la pluie tomber avec le petit feu de foyer en dedans, c'est deux scénarios très agréables. Ça, faut pas que ça passe au feu.
Non, est-ce que c'est un peu la même vision que la tête d'allumette, là, le décor extérieur quand tu y vas?
Oui, oui, oui.
Parce que la tête
d'allumette
dans le bas du fleuve, c'est un autre endroit où aller, assurément.
Ça s'appelle la tête d'allumette.
Oui, microbrasserie la tête d'allumette.
Ouais. Ah, il y a beaucoup de beaux spots de microbrasserie. Même si ton estomac se promène un peu, là, ça vaut la peine pour les
paysages. Tu prendras une bonne soupe à la glace.
Bonne soupe à la glace, moi, c'est pas mauvais. Mais tu sais, en jaser avec Roger Ferland, puis en jasant avec Mario Mourani, je me souviens pas si on l'avait dit en onde ou hors d'onde, mais ce qu'eux mentionnent, c'est que Une organisation va se faire moins chaler si la tête est disponible pour discuter avec les policiers une fois de temps en temps.
Ah oui?
C'est que là, la mafia est rendue tellement faible à Montréal. Mm-hmm. Il reste encore la personne qui est propriétaire du fameux carnet de notes là, sur lequel toutes les dettes de jeu sont inscrites et toutes les dettes de drogue. Mais les grosses familles mafieuses ne sont plus là.
C'est vrai.
C'est des tâches qui sont partagées les uns avec les autres. Donc, si tu veux parler à un... Bien, c'est pas nécessairement certain que l'autre va être au courant puis que l'autre va être au courant. Tandis que dans le temps, il y avait une famille qui était responsable, puis le chef de police de la ville de Montréal, il avait un message à passer, il allait le rencontrer. Mm-hmm. Il se rencontrait ou il se téléphonait.
Ouais.
Même affaire pour ce qui est de la guerre des motards. Je sais que Guy Ouellet, à l'époque, qui était le responsable de la Sûreté du Québec pour le dossier des motards, discutait régulièrement avec Mom Boucher. Fait que quand il y avait des parties, puis on savait qu'il y avait des éléments dans ce party-là qui étaient perturbateurs, puis on devait aller les chercher à l'intérieur, on discutait avec Mom Boucher en disant « On est autour de l'endroit où vous êtes, on va rentrer dans 20 minutes,
on va aller chercher lui.
Ces deux gars-là.
Okay. » Fait qu'il y avait... On négociait un peu la façon de faire. Ou on avertissait
de
courtoisie.
Mais ils disent « Pour la sécurité de nos agents, on va les prévenir d'avance, comme quoi on ne sera pas attaqué. »
Est-ce que ça te rend mal à l'aise?
Non, pas du tout. En fait, ça me rassure parce que ça veut dire qu'il était toujours en discussion avec les têtes dirigeantes. Mais là, avec les gangs de rue à Montréal, il n'y a plus personne qui dirige.
C'est parce que tant que tu parles avec le monde criminalisé, tant que tu as des discussions, mon feeling à moi, c'est qu'il n'y a pas un flot de 14 ans dans les rues avec un AK-47. C'est pas le genre de choses qui arrivent parce que c'est de l'intérêt des groupes criminels organisés, c'est de l'intérêt de la police que personne fasse de bruit. Tout le monde va faire sa petite business, tout le monde... Le meilleur crime, puis ça, ben j'ai vu les films des parrains, puis c'est ça qu'ils disent dedans, fait que je vais y croire, tu sais. Les meilleurs crimes, c'est les crimes silencieux, c'est les crimes discrets, c'est les crimes cravatés. Quand la business roule et que tu as le contrôle de ta business, t'as pas de violence, t'as pas d'incendie criminel, t'as pas de menace, tout se règle et tout se gère bien, discrètement, silencieusement. Mais là, le silence, la tranquillité, quand tu demandes un gros cote-part à de nouvelles gangs jeunes, criminels, qui, eux autres, nagent dans un certain climat d'agressivité, ben c'est là que ça peut devenir explosif. Puis c'est ça qu'on voit. Probablement que les jeunes n'aiment pas ça, de voir des vieux à semi-retraite qui jasent avec les policiers comme si c'était des chummés.
Ils n'en ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire des policiers non plus. C'est vraiment la loi et l'ordre de notre clan. Et même à l'intérieur même des clans, il y a des chicanes à savoir qui va avoir le pouvoir. Fait que quand c'est en train de se coltailler au sein même d'un clan ou d'un environnement de gang, à ce moment-là, tu sais à quel point qu'il n'y aura aucune collaboration extérieure. Puis c'est ça le problème actuel.
Le fait qu'ils se brassent pas de marde, eux autres voient ça comme une faiblesse et comme une ouverture, puis on le voit, ils en ont profité. Autant les bandes rivales de la région de Québec que les bandes de Montréal qui ont vu des opportunités ailleurs en province.
Là, actuellement à Québec, pour ce qui est des Hells Angels, c'est Gamache qui run la business. Pour ce qui est de Montréal, c'est Martin Robert qui run la business. Mais il n'y a pas de chef des Hells Angels au Québec, connu du moins. Là.
Ouais.
On a longtemps pensé que c'était Mom Boucher qui était le chef pour finalement apprendre que c'était pas lui qui renait la business, mais qu'il était responsable d'une escouade qui était extrêmement dangereuse. Puis les médias s'intéressaient à lui en le présentant comme étant le chef des Hells Angels, mais ça ne l'était pas. J'ai hâte de voir si tout ça va se tranquilliser à un moment donné.
J'espère.
Mais avec le fait qu'on vient de réquisitionner le bunker des Hells à Frampton, ben c'est peut-être les premiers signes annonciateurs que la police ne se laissera pas faire.
À suivre, puis c'est ça. J'espère... Complètement enrayer le crime organisé, je pense que c'est de la pensée utopique, mais revenir à une certaine dose de calme qui va faire en sorte que nos enfants vont être un petit peu plus protégés. Parce que j'imagine qu'en temps de paix sociale, c'est le genre de choses que tu peux négocier avec des organisations criminelles, genre « Hey, ta business, là, va pas à faire d'un cours d'école. » Tu sais, garde un petit périmètre de sécurité. Fais ça dans un bar, fais ça le soir à Saint-Roch ou whatever, tu sais. J'imagine des choses, là. Mais j'imagine qu'il y a moyen de trouver des règles et des façons de faire qui font en sorte que les policiers vont pouvoir laisser aller et les groupes criminels vont pouvoir faire leur business sans se faire chier, mais en respectant quand même quelques règles éthiques, appelons-le comme ça.
Moi, j'ai plus d'espoir.
À quel niveau?
J'en ai plus d'espoir des fameuses règles qu'on a connues auparavant dans la hiérarchie puis dans ce qu'on ne dépasse pas. On ne touche pas aux enfants, on ne touche pas aux femmes, on ne fait pas des crimes visuellement où les citoyens peuvent constater. Puis on ne fait pas ça dans le jour. Puis il y avait tellement de règles préétablies qui étaient non dites et ou répétées à l'intérieur même des fractions criminelles. Moi, ça, je n'y crois plus. Pourquoi? Parce que quand on regarde à l'international comment ça se passe, c'est rendu de cette manière-là. Puis avec les portes ouvertes dans le monde, c'est beaucoup plus de, comment dire, de collaboration internationale. Là. Avant, c'était un petit peu plus difficile au niveau communication aussi. C'était des appareils qui étaient facilement interceptables aussi par les policiers.
Ouais.
Moi, je n'y crois plus à ce moment-ci.
Il n'y a plus d'intouchables.
Non.
Ouais, mais c'est quand même cyclique. Quand tu regardes les grandes familles mafieuses au début des années 30 et des années 40, ça a pris des guerres sanglantes entre familles de mafia pour faire en sorte qu'il y en ait une qui s'établit. Mais à partir du moment où elle s'établit, elle a des pertes puis elle est écœurée de se battre. Et c'est dans ces circonstances-là qu'on commence à négocier avec les policiers un genre de paix sociale. Quand il y a eu la guerre des motards avec les Rock Machine et les Hells Angels, je présume que quand on a terminé de tout brûler des deux bords, qu'on a tué du monde et ainsi de suite, j'imagine que c'était dans l'intérêt commun et des policiers et des Hells Angels de dire « voici comment on procède pour plus que ça arrive ». Au début des années 70, avec les familles de mafia du côté de New York, je pense qu'on a assisté sensiblement à la même chose. C'est un cycle. Là, on est dans le bout violent en espérant qu'au bout de ce cycle-là, on ait des gens qui soient assez grands et assez responsables pour faire en sorte qu'on retombe dans le calme un petit peu pour nos enfants.
Tu avais des organisations qui étaient prisées. Toi, si, mettons, tu voulais faire ta vie dans un gang criminel, tu sélectionnais une organisation prisée, puis c'était ça que tu visais. Mm. Tu voulais être dans ce gang-là. Maintenant, ce qui se crée, c'est des organisations de façon parallèle à celles qui existent, pour démanteler celles qui ont eu le pouvoir. Il y a une quête de pouvoir face à tous ceux qui ont régné dans ce monde-là criminel depuis des années. Puis c'est ceux-là qui font le plus peur. Puis c'est ceux-là qui sont nouvelles, finalement. Puis qui sont un petit peu moins démantelables par d'autres gangs organisés qu'auparavant.
Ouais. Il y a peut-être des adultes, à un moment donné, qui vont juste dire, regarde, nous autres, on reprend le contrôle de la province, puis vous autres, vous allez vous calmer les nerfs, ou sans ça, on va tous vous faire partir un par un, d'une façon ou d'une ouais. autre.
Parce qu'ils sont mal foutus, Denis, tu sais, pour voir un peu l'état des Hells Angels à Québec, ouais. du moins, puis même les environs. C'est tous des vieux qui sont en affaires, qui ont fait de la prison, qui ne veulent pas y retourner, puis qui ont beaucoup d'argent.
Puis qui ont peut-être mal préparé leur relève aussi.
Mmh. Aussi.
Ouais.
Puis là, tu as Martin Robert qui est autour de, mettons, je vous dirais, 40, entre 40 et 50 ans. Qui non, pas Martin Robert. Excusez, Gamache est entre 40 et 50 ans. Robert est autour de 50 ans. Ils sont encore très jeunes pour des Hells Angels, mais tous les strikers, tous les hang-around, quand ils ont vu la gang à Pic Turmel commencer à découper le monde...
Ça ne le tente plus, hein?
Ça, ils ont comme dit au club, « Hey, on va revenir parce que pour l'instant, mes enfants puis ma femme sont à risque. »
Exact.
Donc, j'ai hâte de voir de quoi va être fait nos prochaines années, mais ça regarde vraiment pas bien pour que les Hells Angels puissent essayer de reprendre le dessus dans la région de Québec. Ce qu'on me dit, c'est que l'Ouest canadien n'est pas du tout satisfait du travail des Hells Angels au Québec. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce qu'il y a de la tension aussi à l'interne même de ce groupe-là.
Oui, parce qu'on l'oublie, hein, c'est un groupe international. Là.
Oui. Ouais, ouais. Tu sais, quand un groupe se fait botter le cul, puis tu disais peu, là, c'est parce que c'est la même équipe que moi, pourquoi ils se laissent botter le cul?
C'est pas bon pour notre crédibilité à nous autres. C'est pas bon pour le crest.
Autre dossier, les amis, la ministre Geneviève Guilbeault, qui serait dans l'eau chaude, l'aurait ignoré des avis d'experts sur l'alcool au volant. Devoir qui rapportait ce matin qu'il y a un avis de la Société de l'assurance automobile du Québec qui estime que l'abaissement du taux d'alcoolémie de 0,08 à 0,05 au volant est une mesure porteuse. Il ne s'agirait pas d'un acte criminel si vous vous faites prendre à 0,06, mm-hmm. mais on vous donnerait des mesures administratives pour sanctionner les conducteurs. Donc, on pourrait vous empêcher de conduire pendant un mois, deux mois, trois mois, avec une petite pénalité monétaire, bien entendu. Et c'est un document qui date de novembre 2023, puis c'est un avis qui s'ajoute aussi à celui de l'Institut de la santé publique et de CAA Québec. Et la ministre du Transport a ignoré complètement ou aurait ignoré complètement ces trois avis-là. Et là, les libéraux disent qu'elle n'a plus la crédibilité pour être ministre des Transports.
Écoute, il y a plein de raisons pour lesquelles elle n'aurait peut-être plus la crédibilité d'être ministre des Transports. Le bretage sur le tramway, les volte-face sur le troisième lien, le fait qu'il n'y a aucune cohésion dans les secteurs de travaux, ce qui fait en sorte qu'on est pris en otage plus souvent qu'autrement dans les grosses heures de trafic. Maintenant, concernant cette tendance, qui est une tendance nord-américaine très forte là, depuis quelques années...
Il y a juste le Québec.
Exact. On a pas mal partout. On a pris la barre qui était à 0.08 pour les endroits où c'était là, puis on l'a remis presque de façon universelle à 0.05. C'est-tu the way to go? Probablement. Ça s'ajoute. Ça s'ajoute à la liste. Je pense que Mme Guilbeault aime mieux être vice-première ministre que ministre des Transports en général. Ça se peut-tu?
Ça va pas bien pour elle. Si vous regardez sur le site de Québec 125, là, tous les députés de la Coalition Avenir Québec dans la grande région de Québec perdent leur job. Et ça inclut Mme Guilbeault.
C'est intéressant.
Ça. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire pour les prochains mois pour essayer de remonter dans les sondages.
Est-ce ça va être difficile. Là. Ils ont essayé le hockey, ça n'a pas fait. Ils ont essayé le troisième lien, ça ne fait pas non plus. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que la CAQ peut donner d'autre pour s'acheter des votes dans les prochains mois? Tu vois-tu quelque chose, toi?
C'est une bonne question. Est-ce qu'ils vont mettre plus l'emphase sur le troisième lien? Là, je sais que le tramway est un peu plus hésitante, mais là, le tramway, il va se passer quelque chose là, dans les prochaines minutes, les
ça
prochaines
a l'air.
Heures.
Ça a l'air.
À ce qu'on nous dit, il y aura signature d'entente. Mais qu'est-ce qui pourrait nous sortir? Je ne sais pas.
Sont tellement les régions. Là, tout le monde visait les régions pendant un bout, mais comment tu veux les viser?
Ils sont tellement dans le trouble avec le budget. T'sais, c'est un déficit épouvantable. On se dit, mais comment ils vont faire pour se remettre de ça? Puis avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, hier, on en discutait, tu sais. Il avait annoncé un déficit, puis là, le déficit va être encore plus gros qu'est-ce qu'on t'a. À l'intérieur de tous les ministères, le mot d'ordre, on s'en parlait hier, c'est on coupe, on coupe, on coupe, on coupe.
Ouais.
Mais il y a de plus en plus de fonctionnaires. Il n'y a rien qui se tient avec la Coalition Avenir Québec. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir pour essayer de plaire à la région de Québec? Je le sais pas, si ce n'est que le troisième lien, à un moment donné, ils vont dire « OK, c'est beau, on le fait, là, premier pelleté de terre, ils vont se mettre un casque sur la tête, puis après ça, s'il y a une autre administration qui arrive, si le Parti québécois y arrive, oh, ben ça, c'était pas notre promesse, c'était la promesse de la CAQ, mais on a toujours été contre. »
Mais j'ai l'impression qu'il est trop tard dans le dossier du troisième lien pour faire des gains là-dessus. Ils ont changé d'idée trop souvent. Les gens les croient juste plus. On est, vis-à-vis le troisième lien, comme on est dans le dossier des Nordiques. Quand ce sera fait, vous nous le direz. On s'est trop fait niaiser, on s'est trop fait teaser, puis je pense que tu peux plus gagner de vote. Quand bien même qu'il fera photo là, en avant d'un canal, mettons, ou tu sais, une belle photo là, avec un ruban.
Avec l'étiquette.
Non, j'ai l'impression que c'est trop peu, trop tard. Quand il sera inauguré et que les gens pourront traverser d'une rive à l'autre, ça va peut-être apporter des votes. D'ici là, je vois pas. Le point 0.05, il n'y a pas de gain de vote à faire avec une résolution comme celle-là, qu'elle soit bonne ou pas bonne. Là, tu as le volet économique de la CAQ qui a quitté hein, dans les dernières semaines. Fitzgibbon, Chassin. Tu as Nordvolt qui fait faillite au niveau d'une de ses filiales, vraisemblablement dans les prochaines heures. Il n'y a rien de bon. Il est où le lapin qui va sortir du chapeau? Je vois pas grand-chose. À moins que... Non, je veux pas. Je veux pas aller là. Je veux pas aller là. Je veux pas aller là, mais on est tellement taouin. On est tellement taouin que si jamais les Nordiques reviennent dans la prochaine année,
ouais,
et je vois pas l'ombre d'une chance que ça arrive, mais mettons que ça arrive, je suis prêt à mettre ma main dans le feu qu'ils vont tous sauver la région de Québec.
Fait qu'on va repartir la Boulevard Nation?
Moi, j'embarque plus.
Non, gardez votre crédibilité.
On prend le remax.
Moi, je vais aller voir les games Nordic Bruins. Là, pour le reste, achalez-moi un peu avec ça.
Mais Éric Girard, c'est pas incontable. Hein?
On prend le remax, puis on prendra, mettons, les couleurs là, de Boulevard, là, c'est bleu pâle.
Oui.
On mettra une pelle bleu pâle.
Ben, écoute, c'est rendu. C'est comme Star Trek, là, The Next Generation. Là, ils ont fait ça dans l'an 50 aussi. C'est aux jeunes de reprendre le flambeau à Star. Mais regarde, c'est cynique à l'os, là. Mais mettons que ça arrive. Je te garantis qu'Éric Girard et François Legault prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de mérite et que ça peut marcher dans une certaine mesure.
Oh boy! Tu me fais peur. Hey, l'Institut de la statistique a sorti des chiffres aujourd'hui puis sont publiés sur le site de Radio-Canada. Moi, plus tard, j'ai l'intention de m'éloigner de la ville où je suis né, c'est-à-dire Québec. Je veux m'éloigner peut-être un peu plus vers la Beauce, peut-être un peu plus vers le nord.
Tu quittes pas le Québec?
Je ne quitterai pas le Québec, mais je veux juste avoir comme un petit terrain avec du bois à ma gauche, du bois à ma droite,
okay.
Au contraire, du bois à ma gauche, du bois à ma droite, puis peut-être même du bois en face de chez nous, puis du bois en arrière.
Bon, toi, tu feras pas fermer de terrain de soccer parce que ça fait du bruit.
Non, hein? Non, moi, je veux juste avoir la sainte paix sur mon petit lopin de terre puis mourir là.
Ouais.
Mais je regarde là, les chiffres de l'Institut de la statistique du Québec pour la capitale nationale. D'ici 2051, on nous dit que la population de Québec, ça va atteindre 1 million de personnes. Ça sera plus vivable.
Ça va être très difficile. Très, très, très difficile. Est-ce que tu peux réussir à faire revivre le cœur de la ville avec une circulation interne qui touche pas les banlieues, parce que le fait d'aller en ville puis de sortir de la ville, que ce soit la fin de semaine ou que ce soit pendant la semaine de travail, c'est déjà un petit peu compliqué, c'est déjà un petit peu complexe. Je suis d'accord avec toi, à moins de trouver quelque chose de révolutionnaire, puis c'est pas avec deux stations de tramway qu'on va régler ça loin de là. Ça prend une vision beaucoup plus articulée, beaucoup plus proactive.
Ouais.
Ça va être difficile.
Mais les solutions sont là. On en a parlé dans le Pit Stop l'autre jour. Là. Comment ils s'appellent? Les frères Trudel.
Oui.
Des gens très gentils, hyper sympathiques, brillants, des hommes d'affaires qui essaient de redonner ce qu'on leur a donné quand ils étaient plus jeunes, avec la bouchée généreuse, entre autres. Ce qu'ils sont en train de faire là, je pense que c'est le futur. Là. Ils construisent un méga complexe, en fait, de plusieurs immeubles où tu vas avoir tout. Tu vas rester là, tu vas pouvoir travailler là, tu vas pouvoir faire ton épicerie, tu vas pouvoir aller dans une microbrasserie, tu vas pouvoir aller dans un restaurant, et tout ça à pied.
Yann, c'est mon rêve de retraite. Ce que tu es en train d'expliquer. Toi, tu te vois avec un lopin de terre.
Ouais.
Moi, le bois, c'est du trouble. C'est de l'entretien, c'est de l'ouvrage. Toutes des affaires que j'aime pas. Moi, ma retraite, c'est dans la ville que j'aime, qui n'est pas ma ville de naissance. Mais je me vois très bien vivre à Québec mes années de retraite. Pas de char.
Ouais.
Mais,
en hauteur?
En hauteur, absolument. Ouais. Puis aller à l'épicerie, la microbrasserie du coin, l'aréna s'il y a des matchs, être un citoyen de Québec qui reste un insulaire, finalement. Là.
Mais la solution, c'est là, c'est de mettre des petits centres-villes un peu partout, comme on a fait au centre-ville de Québec, comme on a fait dans le secteur du boulevard Laurier.
Pour
comme
du monde vieillissant, qui veulent rester actifs puis qui veulent garder une qualité de vie,
exact.
Ça va devenir très intéressant puis très séduisant pour
secteur
nous autres.
Le secteur canardière, là, je veux dire, il reste énormément d'endroits où on peut développer en hauteur. J'ai l'impression que c'est ça, le futur de Québec.
C'est très sexy pour quelqu'un de seul aussi, pour un jeune couple.
C'est sûr.
Et même pour une famille, si tout est à proximité.
Ouais.
Donc là, on parle beaucoup de retraite parce que vous autres, vous êtes des vieilles pantoufles. Là. Mais honnêtement, c'est très, très, très sexy.
On vieillit tout, hein? T'as vu les chiffres?
Le problème, c'est qu'on regarde, on regarde ce que les plus vieux vont prendre là, dans la caisse. Oui. Puis pour ce qui est de notre régime des rentes du Québec, il ne restera plus rien. Fait que t'es pogné que nous autres jusqu'à 80 ans.
Ouais.
On va être encore plus fatigué.
2050, Marceau le midi, ça se peut, là.
Peut-être que je vais te rester poignée en Europe ou déjà morte de mon voyage. Fait,
donc, d'ici de 2021 à 2051, la population du Québec va avoir cru de 15,9%. Capitale nationale, c'est 30%.
Hey, c'est hallucinant.
Montréal sont dans le bas du classement là, pour ce qui est de l'augmentation de sa population. Et on les comprend, ceux qui ne veulent pas aller là. 3,4% seulement d'augmentation. Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, c'est dommage parce que c'est un super de bel endroit pour aller vivre, surtout pour sa retraite, on va se le dire.
Ben oui.
Moins 3%. Abitibi-Témiscamingue, moins 2%. Saguenay-Lac-Saint-Jean, ton coin, moins 1%.
OK.
Toi, tu y retournerais?
J'y retournerais. Mais présentement, on est deux. Ma blonde, peut-être moins. Le Saguenay, ça y dit peut-être moins quelque chose que moi. Là, moi, c'est l'attachement.
Le gros présentement, on est deux, Denis.
Ben là, écoute, on ne sait pas ce que la vie nous réserve.
Hey, vivre au jour le jour, c'est pas ça que vous nous enseignez.
J'ai jamais toffé un couple plus que 3 ans. Je suis rendu à 8 ans on and off. Je pousse ma loque.
C'est elle qui est top.
oui, absolument.
Mais OK.
Faut lui donner le mérite.
Fait qu'avec parcimonie.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Vous iriez en vacances, mais c'est vrai, toi, tu vas mourir 40 ans avant elle.
C'est ça
pour
qui arrive.
Pour l'instant, je t'en coupe. Moi, je dis ça, je me fais tuer. Là.
Tu penses?
Ouais, elle n'a pas la même patience.
Finalement, il n'y aura plus de pit stop point la semaine prochaine.
Moi, je la connais, tiens, elle est très patiente. La mienne est très impatiente.
Je pense qu'elle a appris à vivre avec mes nombreuses insécurités, puis même de se moquer de moi de façon quotidienne.
J'ai beau dire, des fois, chérie, je me trompe de mots parce que je suis fatigué, je fais de la dysphasie. Si je dis pour l'instant, je t'en coupe, je suis mort.
Mais c'est parce que Yannick. Elle n'est pas impatiente, t'es menteur. Je fais de la dysphasie,
c'est
je me trompe de mots.
Quand je suis fatigué, c'est vrai.
Je serais très impatiente envers quelqu'un qui me ment en pleine face.
Puis de mon côté, j'essaie de me racheter désespérément, mais de mon côté, je disais que pour l'instant, on est deux. Je parlais pas de la durabilité du couple, je parlais juste de notre espérance de vie respective.
Oui, c'est ça. Vu que je t'ai donné la POC,
c'est
30 secondes.
Dans 20-30 ans, ça se peut que je sois partie. Elle va être encore là, jeune, fringante.
Fait qu'elle va pas rester à Québec. Ben oui. Pas de problème.
On est en congé lundi.
Ouf. Yes!
Donc, on revient mardi prochain. Pascal CV sera pas là. Fait qu'encore plus de masculinité toxique sur les bords de boulevard.
Oui, full alpha pis tout. Pis
toi, tu t'imprègnes de ça.
Ben oui. Ah oui, ben regarde, j'ai une chemise à carreaux, j'ai une barre, j'ai un mâle
alpha. On raccroche, Anthony va appeler.
Non, toi, raccroche. Salut, Denis, merci.
Salut, tantôt. Gravel.